D'abord, je voudrais souhaiter une bonne année. Que les vœux de chacun soient comblés. Et pour commencer cette année, on a commencé, et c'est ça le sujet, par une question. Une double question, puisque à propos de la Teshuvah, on demande pourquoi et comment. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que la Teshuvah et de quoi va-t-on parler. Il y a deux sortes de Teshuvah. Il y a une Teshuvah de laquelle on parle beaucoup aujourd'hui. On rencontre des gens autour de nous qui viennent et qui nous disent « J'ai fait Teshuvah, je suis Baal Teshuvah ». On parle beaucoup de ce mot-là de Teshuvah. Seulement, ça n'est peut-être pas de cette Teshuvah-là qu'on va parler ce soir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un verset dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, où il est dit ceci. « Kol dodi dofek, la voix de mon ami, motamo dofek frappe, et me dit, Pitrili achoti raayati, ouvre-moi, ma sœur, ma compagne. » C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, et qui lui dit, reviens vers moi. Le verset continue et répond Pashati et kutanti echacha el bashena rachatsti et raglai echacha antanfem. Motamo pashati et kutanti, je me suis déjà déshabillé. Rachatsti et raglai, j'ai déjà lavé mes pieds. Comment me rhabillerai-je echacha antanfem et comment me salirai-je? Rashi explique qu'il s'agit du dialogue entre Akadosh Baruch Hu, entre Dieu et le peuple d'Israël. Dieu lui dit « Kol dodi dofek pitrili, reviens vers moi » et le peuple d'Israël lui dit, Rashi dit, on compare le peuple à une femme infidèle qui ne veut plus ouvrir sa porte à son mari et qui lui dit « Pashati et kuntanti echacha el bashena » L'effort est trop grand, je n'arriverai pas à le faire. Rachatsti et raglai, j'ai lavé mes pieds, c'est-à-dire je me suis préparé à autre chose. Nous voyons donc qu'il existe une difficulté qui a l'air grande de faire Teshuvah. D'un autre côté, nous voyons dans le Rambam, dans le deuxième perek, dans le deuxième chapitre des Ilchot Teshuvah, des Alachot de la Teshuvah, dit le Rambam, Eizoui Tshuva Gomorra, quelle est la vraie Tshuva? C'est celui qui se retrouve dans la même situation. Et après qu'il ait décidé de ne plus faire d'Avera, de ne plus faire d'action interdite, cesse de le faire. Et il ne pourra savoir qu'il est Baal Teshuva que lorsqu'il se retrouve dans la même situation et il ne le fait pas. Il y a là ici un problème. Le problème de la difficulté de la Teshuvah, que nous ne rencontrons pas chez ceux qui nous disent qu'ils sont Baal et Teshuvah. On va donner un exemple. Je décide de cesser de manger taref. Je n'ai pas besoin, comme dit le Rambam, de me trouver devant un restaurant taref et de ne pas y rentrer pour prouver et me prouver que j'ai fait Teshuvah. Puisque j'ai décidé de manger kasher, je n'ai même plus envie, et je n'ai besoin de prouver à personne, ni de prouver à moi-même, que je ne mangerai plus taref. Parce que cette Teshuvah vient, non pas par un phénomène de Teshuvah de retour, mais par un phénomène d'étude, d'éducation. Celui qui ne savait pas, qui ne comprenait pas, qui maintenant a compris, qui maintenant sait, il n'a aucune difficulté à mettre ses actions en parallèle avec sa pensée. Lorsque j'ignorais quelque chose et qu'on me l'apprend, et que maintenant, puisque je l'ai appris, j'en suis convaincu, non seulement je n'ai pas à regretter ce que j'ai fait avant parce que je ne le savais pas, je ne savais pas que c'était interdit, mais en plus je n'ai pas de problème d'être un Baal Teshuvah, je n'ai pas le problème, Eichacha El Bashena, comment me rhabillerai, je n'ai pas de problème pour arrêter ma vie antérieure. La tshuva dont nous voudrions parler, ça n'est donc pas celle de celui qui ne connaissait pas, celle de celui qui a pratiqué une auto-éducation, ou celui qui a reçu un enseignement, qui change de doctrine et de vie parce qu'il a changé sa pensée. Mais on va parler, parce que là est le vrai problème de la Teshuvah, de celui qui s'est conduit d'une façon dont sa pensée réprouvait le fait même. Pachati et Kutanti et Chachal Bashena. Cette femme qui est infidèle, elle sait que c'est mal d'être infidèle. Et quand même, elle l'a été. Et c'est la raison pour laquelle il est difficile de se rhabiller. Rachatzti et Raglai, ce que le peuple d'Israël dit, et Rashi dit là-bas, je me suis trouvé d'autres chemins. Ça n'est pas que j'ignorais le chemin, c'est que j'en ai choisi d'autres délibérément, parce que je n'ai pas pu m'empêcher de faire autrement. Et là est le problème de la Teshuvah, là est la difficulté qu'éprouve le peuple d'Israël. Donc pour serrer le problème, nous ne parlerons pas de l'ignorant qui accède à la connaissance de la mitzvah, et pour lequel il est évident qu'à partir du moment où il a appris, il va se conduire selon sa pensée nouvelle acquise. Mais nous allons parler de celui, et ça c'est le problème de chacun, qu'on ait fait Teshuvah ou qu'on ne l'ait pas fait, de celui qui éprouve des difficultés dans sa conduite, et qui au moment où arrive Rosh Hashanah et Yom Kippour, la Torah vient et lui dit, maintenant il faut faire Teshuvah, il faut revenir en arrière. Pas parce que tu ne savais pas, parce que tu n'es pas arrivé à te conduire comme tu voulais, et maintenant c'est l'occasion d'y arriver. C'est de cette Teshuvah dont nous allons parler. Pourquoi faire Teshuvah? En vérité, c'est une grande question. Elle est si grande que le Rambam Maïmonide a décidé qu'il n'y avait pas de mitzvah de Teshuvah. Maïmonide dit, la Teshuvah, ça ne peut pas être une mitzvah. On ne peut pas me dire, dans une période donnée, fais Teshuvah. Pourquoi? Parce que si je suis convaincu que ce que je fais, c'est mal, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Et si je suis convaincu que c'est bien, ce n'est pas la peine de me dire que c'est une mitzvah. Ça ne servira à rien du tout. La Torah elle-même commande la Teshuvah. Ça n'est pas parce que j'ai fait une avéra hier que je vais la refaire aujourd'hui. Si je l'ai fait hier et que j'avais une raison de la faire, ça n'est pas en me donnant une mitzvah, en me disant « reviens » que je reviendrai. Ou je ne réprouve pas ma conduite et je n'ai que faire de la mitzvah. Ou de toute façon, la Torah m'interpelle, elle me dit, ça n'est pas parce que hier tu t'es mal conduit que demain tu te conduiras mal. La mitzvah est toujours présente et je suis obligé de toute façon de me mesurer à la mitzvah du lendemain. C'est la raison pour laquelle le Rambam dit qu'il n'y a pas de mitzvah de Teshuvah. C'est la Torah elle-même qui commande la Teshuvah. La mitzvah qui se présente à moi commande la Teshuvah. Mais le Ramban, Nachmanide, lui, dit qu'il y a une mitzvah de Teshuvah. Et comment comprendre qu'on m'ordonne de faire Teshuvah? Puisque la question était bonne. Si tu m'as ordonné de faire une mitzvah et je ne l'ai pas fait, ce n'est pas la peine de me donner une deuxième mitzvah qui s'appellera la Teshuvah, celle-là non plus je ne la ferai pas. Ça c'est la première question. Mais il y a encore une autre question, qui a priori n'a pas de rapport, mais qui est importante. Nous nous disons à Rosh Hashanah, Zochreinu lechaim, melech chafetz b'chaim, vekotvenu besefer achaim. Nous prions et nous demandons à Dieu de nous inscrire dans le livre de la vie. C'est-à-dire que la vie est quelque chose que nous demandons, que nous voulons, que nous espérons. Et nous trouvons triste tout celui qui la perd. Et nous serions sûrement incapables de nous mesurer à l'endroit et au moment où nous prions avec ce phénomène de la perte de la vie. C'est un des désirs et des besoins les plus profonds de l'homme que de demander la vie. Et pourtant, tous les matins dans la prière, nous disons quelque chose qui va à l'encontre de ceci. Nous disons Ve'al tevienu l'idée nisayon. Ne nous amène pas devant le choix, devant l'épreuve. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, justement, c'est le choix. S'il n'y avait pas de choix, il n'y aurait pas de vie. Vivre sans pouvoir se mouvoir selon sa propre volonté, ça n'est pas une vie. Et la Gemara, dans le traité de Sanhédrin, nous raconte que David Amelech, le roi David, un jour a fait une bêtise et il l'a regretté. Il a dit à Dieu, « Bechaneni Hashem venaseni, éprouve-moi, mets-moi devant un choix difficile. » Mot à mot, il a demandé la vie. David Amelech lui-même l'a regretté, puisqu'on lui a envoyé l'épreuve de Bathsheba. Et lui-même a dit après, « Zamoti balia avorpi, je regrette d'avoir fait une telle demande. » Donc nous voyons qu'il existe en nous une contradiction. Nous demandons la vie, c'est-à-dire que nous demandons à Kadosh Baruch Hu de nous mettre devant des choix et devant des épreuves pour pouvoir réussir quelque chose, pour pouvoir avancer vers quelque chose. Et d'un autre côté, nous disons surtout pas l'épreuve, surtout pas de choix. Et celui qui un jour a demandé cette vie, ce choix, il l'a regretté, c'est David Amelech. En répondant à cette question, on va peut-être essayer de voir ce qu'est la Teshuvah. Il y a une Gemara dans le traité d'Eruvin. La Gemara dit ceci. Shtei shanim vamertza. Pendant 2 ans et demi, nechloku bet shamay bet hillel, bet shamay et bet hillel ont discuté. Est-ce que Noach le Adam shenivra, est-ce qu'il était meilleur pour l'homme d'avoir été créé, ou Noach le Adam shelo nivra, ou il aurait été meilleur pour l'homme de ne pas avoir été créé. 2 ans et demi de discussion. À la fin, ils se sont mis d'accord. Noach lo le Adam shelo nivra. Il aurait été meilleur pour l'homme de ne pas avoir été créé. Ve'arshav shenivra. Mais maintenant qu'il a été créé, yepashpesh b'ma'asav. Rachidi, qu'est-ce que ça veut dire yepashpesh b'ma'asav? Yashuv, qu'il fasse teshuva. Et la question est évidente. Les chachamim se permettent de décider de quelque chose, alors que la Torah nous dit le contraire. Dans la création du monde en Bereshit, il est dit, à propos de chaque création, Dieu a regardé, a vu, ve'inetov, c'était bien. Et à la création de l'homme, il a dit, ve'inetov me'od, c'est très bien. Et voilà que Bet Shammai et Bet Hillel se permettent de venir et de me dire, Noach lo l'Adam shelo nivra, il eût mieux valu que l'homme ne fût pas créé. Comment comprendre ceci? En fin de compte, il s'agit du même problème qu'on a soulevé tout à l'heure. Je dis, Zochreinu lechaim, Laisse-moi vivre, laisse-moi devenir quelque chose. Et on ne peut devenir que par l'épreuve, par le choix. Et d'un autre côté, je dis, Loli Denisayon, je préfère être tranquille qu'on ne demande rien. Imaginons un homme qui n'a aucun choix. Imaginons que l'homme était créé tout seul, sans objet autour de lui, sans homme autour de lui, lui seul dans la création. De quoi aurait été fait sa vie? Ça n'aurait pas été la vie, ça aurait été la mort. À partir du moment où on place un objet à côté de lui, il a déjà deux possibilités. 3, 4, 5. Se servir de l'objet, casser l'objet, insulter l'objet, parler à l'objet. Il a déjà une possibilité. Mais s'il avait été créé tout seul sans rien, il n'y aurait pas eu de différence entre la vie et la mort. C'est comme ça qu'on comprend que lorsque je me trouve devant deux chemins, devant deux possibilités, devant une alternative, je vis. Je ne me trouve pas devant une alternative, je suis seul. Je suis seul, je ne peux que me consumer, mais je ne peux pas avoir de relation avec quoi que ce soit. Je ne peux pas évoluer. Je ne peux même pas penser. Parce que qui dit penser, dit relation avec autre chose. Et voilà que je me permets moi tous les matins de dire « Loli de Nisayon, je ne veux pas de ça, pas de Nisayon, pas d'objet autour de moi, pas d'humain autour de moi, rien du tout. » Le même problème avec Beth Shammai et Beth Hillel. Je n'aurais pas voulu être créé. Ça veut dire que j'aurais préféré être une Neshama isolée, sans possibilité d'expression, sans choix, sans alternative. Alors qu'à Kadosh Baruch Hu, lui, Dieu a dit, Veine Tov Meod. On ne pouvait pas faire mieux que de créer l'homme. Pour répondre à ça, on va raconter une petite histoire. Il y avait un rabbin connu qui s'appelait Rav Israël Salanter au siècle dernier. Rav Israël Salanter, un jour, une communauté est venue chez lui et lui a demandé de choisir un de ses élèves pour enseigner et pour être le Dayan, pour être juge dans la communauté. Il a appelé un de ses élèves et il lui a fait cette proposition. L'élève lui a répondu, ne me prenez pas moi, ne me choisissez pas. J'ai peur de mal enseigner, j'ai peur de mal juger, j'ai peur de mal me conduire envers ces gens-là. Je préfère ne pas me mesurer à cette tâche-là. Rav Israël Salanter lui a répondu, c'est la raison pour laquelle je te choisis. Parce que si tu m'avais dit que tu voulais l'être, alors tu ne peux pas l'être. Ne peut enseigner que celui qui ne veut pas, et ne peut juger que celui qui ne veut pas. Et à ce moment-là, il l'a nommé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Il y a une différence entre la peur du mal et le fait que le mal existe. Si je vais dans une forêt la nuit, j'ai peur. Et même si je suis entouré et que je n'ai pas peur pour une raison X, je préférerais ne pas avoir besoin d'avoir peur. Je préférais que la possibilité du danger n'existait pas. Celui qui a peur du mal, il a peur de l'existence même du mal. Il n'a pas peur seulement de se mesurer au mal, il a peur aussi de l'existence du mal. Lorsque HaKadosh Baruch Hu donne la vie à l'homme, il ne la donne qu'à celui qui est incapable de la vivre. Lui qui se sent capable de la vivre, celui qui se sent capable de se mesurer à toutes les épreuves de la vie n'est pas faite pour lui. Ça n'est pas à lui qu'on a dit Tov Meod. On a dit Tov Meod à celui qui ne voudrait pas se mesurer parce qu'il y a un danger, parce que c'est dur. Mais celui qui ne voit pas le danger, celui qui ne voit pas que c'est dur, il n'a pas besoin de la vie. Et le Midrash le traduit en traduisant le verset « Ve'in et Tov Me'od ». Le Midrash demande « Qu'est-ce que c'est Tov Me'od ?» Très bien. Le Midrash dit « Tov Me'od Zeyetzer Hara ». C'est le mauvais penchant de l'homme. C'est la possibilité d'existence du mal. S'il n'existait pas le mal, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. S'il n'y avait pas la possibilité du choix entre le bien et le mal, il n'y aurait pas de sens à la vie. Celui qui veut se mesurer, celui qui sait qu'il peut se mesurer, celui qui n'a pas peur de se mesurer, c'est que la vie est inadaptée pour lui. Celui qui a du courage, ça n'est pas qu'il n'a pas peur. Il a peur, mais il est obligé d'avoir du courage. Celui qui n'a pas peur, c'est un inconscient. C'est ça ce que viennent nous dire les Chachamim. Noach lo le Adam shelo nivra. Fais attention. La vie est faite d'épreuves. Elle est faite de choix. Elle est faite d'alternatives. C'est comme lorsque tu rentres dans une forêt. Tu peux ne pas avoir peur. Si tu n'as pas peur, c'est que tu n'as pas vu le danger. Et si tu as vu le danger, tu voudrais deux choses. Non seulement te prémunir devant ce danger, mais tu voudrais bien que ce danger n'existe pas. Bien que tu aies besoin de rentrer dans la forêt. Et que sans danger, il n'y a pas de forêt. Et il n'y a pas de forêt sans danger. Celui qui a compris cela, celui qui a compris que la possibilité de non-vie, de mort, existe dans la vie, celui-ci préfère ne pas s'y mesurer. Et celui qui préfère ne pas s'y mesurer, parce que justement il a peur de ceci, c'est à celui-ci qu'Akadosh Baruch Hu donne la vie. Lorsque nous nous disons « Zohreinu le Chaim », c'est que nous voulons l'épreuve. Parce qu'un homme veut vivre, il veut devenir. Parce que la vie, c'est devenir quelque chose d'autre. Mais en même temps, Loli Denisayon, il préférerait ne pas avoir à le faire. Parce que non seulement il a peur de se mesurer au mal, mais il voudrait bien que le mal ne puisse pas exister. C'est pour ça que David Ameler, lorsqu'il a dit Bechaneni Hashem Benaseni, éprouve-moi. Après, il a dit « Zamoti balia vorpi ». Il n'a pas dit que ce n'est pas une chose qu'il faut désirer. Il faut désirer la vie. Ce qu'il ne faut pas, c'est l'exprimer. « Zamoti balia vorpi ». Il n'aurait pas dû demander ceci. Mais le désirer au fond de soi, chacun le désire. Chacun veut l'épreuve. Chacun veut se mesurer à l'épreuve. Seulement, il y a quelque chose qui le retient. C'est la possibilité de ne pas surmonter. Celui qui est retenu par cette possibilité-là, c'est à celui-ci qu'Akadosh Baruch Hu donne l'épreuve. Et celui-ci a des chances de le surmonter. David Ameler, au moment où il a dit « Bechaneni Hashem venaseni », il a exprimé cette volonté de vie qui ne doit pas être exprimée comme cela. Au contraire, elle doit être exprimée dans la forme « Loli denisayon », c'est-à-dire « Essayons de se priver de vie, peut-être on aura plus de chances ». À ce moment-là, David Ameler, lorsqu'il a exprimé, il est tombé. De là, on va voir qu'il y a une notion fondamentale. Nous nous disons, tout le monde sait cette parole, c'est une Gemara dans Brachot, « Akol bide shamaim, chutz mi'irat shamaim ». Tout est dans la main de Dieu, à part la crainte de Dieu. C'est-à-dire, j'ai ma propre liberté. Je peux choisir, je peux faire ce que Dieu m'ordonne, je peux ne pas le faire. À Kol Bide Shamaim, il a tout pouvoir. Mais celui de me forcer à faire ceci ou cela, il ne l'a pas. Et pourquoi il ne l'a pas? Parce que c'est ça ma vie. À Kol Bide Shamaim, les conditions de la vie existent. Chutz mi Yirat Shamaim, mais la vie elle-même, c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Elle est à moi. Je peux la vivre, je peux la renier, je peux faire ce que je veux. Maintenant, on va traduire ça un petit peu autrement. à Kol Bide Shamaim. C'est-à-dire, il y a une solitude extrême. Tout ce qui est l'œuvre de Dieu. Là où je n'ai pas de choix. Là où je ne peux pas me réaliser. Ce qui est les conditions de ma vie. Là, je ne peux avoir de relation avec personne. Chutz miyirat shamaim, à part lorsque je suis devant une épreuve, devant un choix, devant une alternative, à ce moment-là, ça n'est pas bidé shamaim. C'est ma vie à moi. C'est le cadeau que Dieu m'a fait. La Gemara nous dit, Noach lo l'adam shelo nivra. Si tu fais le compte de la vie des hommes, tu vois ce qu'ils ont réussi et ce qu'ils n'ont pas réussi. Tu vois la possibilité du mal. Celui qui peut ne pas rentrer dans une forêt la nuit n'y rentre pas. Noach lo adam shelo nivra. Arshav shenivra, mais maintenant qu'il a été créé, il n'a qu'une seule possibilité de s'en sortir. Yepash pesh bema asav, Rashi traduit, Yashuv, il doit faire teshuva. Si l'on regarde la vie de l'homme, Nivra, ce qu'il a été créé depuis le début jusqu'à la fin, si on met bout à bout ses actes, il n'a aucune chance de s'en sortir. Ce que lui peut faire, c'est effacer ce qu'il a fait tout doucement. Yepash pesh bema asav, ça veut dire, tu n'as pas une seule vie. Il n'y a pas un temps depuis la naissance jusqu'à la mort. Ça n'est pas que l'on va voir tout ça d'un seul coup, parce que si on voit tout ça, ça n'est pas beau. Yepash pesh bema asav, tu peux fractionner, tu peux effacer. Et il peut te rester une vie, elle est peut-être courte, mais elle est propre. Ça, c'est la possibilité de la teshuva. Noach lo la'adam shelo nivra, si tu regardes la vie entière, si tu regardes le total des actions des hommes, la façon dont les milliards et les milliards d'hommes se sont conduits les uns avec les autres pendant leur vie, alors noach lo la'adam shelo nivra. Seulement si tu regardes ceux qui ont fait teshuva, c'est-à-dire qu'on ne peut plus additionner leurs actions parce qu'il y a des actions qui ont été effacées, ce qui reste, cette vie-là, c'est Noach lo la'adam shenivra, et c'est là-dessus où il y a marqué Ve'in et Tov Mod. Donc si on demande à quelqu'un, et si on me demande pourquoi la Torah est venue, elle m'a dit fais teshuva, c'est qu'il y a une possibilité de retour, de se mesurer avec les actions passées, qui s'appelle la teshuva. Le Rambam dit, c'est naturel. Ça n'est pas parce que tu as mal fait hier que tu dois mal faire aujourd'hui. Mais je peux comprendre que la Torah me dit ça ne suffit pas. Il y a une disposition spéciale qui s'appelle la teshuva. On va essayer d'expliquer quelle est cette disposition spéciale. Mais qui permettrait d'effacer quelque chose. Et à ce moment-là, on ne dirait plus Noach shelo nivra. On ne ferait plus le total de toutes les actions. À ce moment-là, on pourrait choisir celle que l'on veut et celle que l'on ne veut pas. Et là, il faut comprendre comment ça se passe. Pour ça, il faut comprendre encore quelque chose. L'homme a été créé et il n'a pas demandé à être créé. Tout le monde sait que la création de l'homme, dans cette création, l'homme est, entre parenthèses, victime du chesed de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Dieu, dans sa bonté, a créé l'homme pour lui donner une possibilité d'exister, une possibilité de se réaliser, de réaliser quelque chose. Mais l'homme ne l'a pas choisi, il est victime là-dedans. Et la tentation est grande de dire, Al kocha atachai, c'est malgré toi que tu vis. Et tu n'as pas à rendre compte de ce que tu fais. Moi, je n'ai pas demandé de vivre. Ensuite, on vient, on me dit, mais il fallait vivre comme ceci et pas comme cela. Moi, je n'ai rien demandé du tout. Si Akadosh Baruch Hu m'a fait un don gratuit, mais il faut qu'il soit gratuit jusqu'au bout. Il ne suffit pas de me dire, attention, c'est gratuit si tu fais comme ça, mais ça va te coûter cher si tu fais autrement. Et ça, chacun au fond de soi a ce problème-là. Je n'ai rien demandé, mais si je ne vais pas droit, ça me coûte cher. Et en plus, lorsqu'un riche donne à un pauvre. Parce qu'il a envie de donner aux pauvres. Peut-être que s'il n'y avait pas de pauvres, il n'aurait pas l'occasion de donner. Moi aussi j'ai fait quelque chose. Moi aussi en vivant je fais quelque chose. Akadosh Baruch Hu, Dieu en créant l'homme, a exprimé ce que l'on appelle la Midata Chesed, c'est-à-dire son attribut de bonté. On peut même dire une bonté suprême, parce qu'il n'a pas attendu qu'on lui tende la main. Il a créé celui qui lui tendra la main. Mais en fin de compte, En Meler Beli Avadim, on ne peut pas être roi si on n'a pas de sujet. Moi, faisant fonction de sujet, je justifie déjà ma propre création. Alors là, la réponse est très simple. C'est vrai que lorsque le pauvre tend la main, celui qui lui donne, il le fait aussi pour lui, parce qu'il a besoin de faire du bien. Mais qui en a envie de donner. Et il y a des pauvres à qui on a envie de reprendre ce qu'on a donné. Le chesed, il ne peut pas s'exprimer envers les murs. Le chesed, il a besoin de s'exprimer envers un homme. Et envers un homme dont on juge qu'il est à la mesure de recevoir ce chesed, cette bonté. Lorsque je sais que l'argent que je vais donner va seulement servir à boire, je n'ai pas envie de le donner. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, c'est vrai, parce qu'il a une mida, il a un attribut de bonté, de chesed, de rachamim, de pitié. Seulement, il faut que celui qui soit en face, ce chesed, cette bonté, puisse s'exprimer. Si elle ne peut pas s'exprimer, elle est nulle. Et ça s'exprime d'une façon encore plus violente. Il y a une gemara dans le traité de Brachot, la gemara dit ceci. Kol mishe en bo dat. Tout celui qui n'a pas de dat, motamo, on pourrait dire qu'il n'est pas, on ne va pas dire intelligent, mais enfin qui n'est pas équilibré. Assour le rachem alav. On n'a pas le droit, il est interdit d'avoir pitié de lui. Ça c'est bizarre. Au contraire, moins quelqu'un peut se suffire à lui-même, plus on doit avoir pitié de lui. Et la Gemara nous dit, attention, c'est un issur interdiction. Kol mishen bodat, celui qui n'a rien dans la tête, assour le rachem alav. Pas de pitié. C'est incompréhensible. Non seulement c'est incompréhensible, c'est pas gentil. Et tout celui qui dit, c'est pas normal, et tout celui qui dit le Hashrei Yoshev Betecha tous les jours, voit marquer le contraire. Nous nous disons dans le Hashrei Yoshev Betecha, Verachamav, Al Kol Maasav. Sa pitié, celle d'Akadosh Baruch Hu, Al Kol Maasav sur toutes ses créatures. Et nous savons que la Gemara dans Bava Metzia nous dit que Rabbi Yehuda Nasi a été puni parce que il n'avait pas pitié d'un petit animal. Rachamav al kol ma'asav, ça veut dire pour toutes les créatures, pas seulement pour l'homme, pas seulement pour celui qui est intelligent, pas seulement pour celui qui a quelque chose dans la tête. Et la réponse est très simple. Rachamim, c'est l'avenir. Din, la justice, c'est le présent. Lorsque j'ai pitié, c'est-à-dire que je ne juge pas selon la stricte, je ne dirais pas vérité, mais justice, ça veut dire que je fais crédit. Quelqu'un a fait une bêtise et il implore le pardon, il implore la pitié. Ça veut dire qu'il veut de l'avenir, il ne veut pas qu'on le juge sur le présent. Celui qui n'a pas de date, il n'a pas d'avenir. Le rachamim n'existe pas. Rachamim, le chesed, c'est de donner quelque chose à quelqu'un, de lui mettre quelque chose devant lui. S'il ne peut rien garder dans les mains, on ne l'a rien mis devant lui. Ce qu'on a fait, c'est bête. Assur le rachem alav. Il faut qu'il ait un avenir. Même la plus petite bête a son utilité, elle a un avenir. Un homme sans date, il n'a pas d'avenir. Mishen bodat assur le rachem alav. Lorsque je donne une pièce à un ivrogne, et qu'il n'a pas de date et qu'il va la boire, il n'a pas d'avenir, ce n'était pas la peine. On ne lui a rien proposé. On n'a rien continué comme œuvre. On n'a rien fait. Nous nous demandons à Rosh Hashanah et Yom Kippour le pardon, la possibilité de Teshuva par la Midat HaRachamim. C'est-à-dire la pitié que Dieu exerce, la miséricorde qu'il exerce envers toute créature. Nous demandons un avenir. Ne regarde pas le passé, regarde l'avenir. Noach lo l'adam shelo nivra, si tu regardes le passé, alors là ça ne vaut pas la peine. Seulement, on peut l'effacer ce passé. Et là vient la grande question. Nous nous disons que selon la stricte justice, on ne peut pas effacer le passé. Et c'est vrai que nous ne comprenons même pas comment on peut effacer le passé. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Quelqu'un qui a tué un autre, la Teshuva ne le fera pas revivre. Qui est-ce qui l'a tué? C'est moi qui l'ai tué. Je ferai Teshuva. Comment va-t-il revivre? Nous ne comprenons même pas comment la Teshuva peut effacer. Mais nous savons que c'est Midat HaRachamim. C'est la miséricorde de Dieu qui fait que cela efface. Et pourtant, il y a une question très simple. Si vous ouvrez la Gemara dans Kiddushin, la Gemara dit ceci. Celui qui est toé à la Rishonot, celui qui a fait une mitzvah, et il le regrette, la mitzvah n'existe plus pour lui. Elle ne compte plus. C'est comme s'il n'avait pas fait. Et là vient la question qui est connu au nom du Kovetz Shiurim. Un sefer, un livre qui s'appelle le Kovetz Shiurim, il demande, dis-moi la différence. Si je fais une mitzvah et que je regrette d'avoir fait la mitzvah, on me dit, elle ne te compte pas, tu n'as pas fait de mitzvah. Mais si j'ai fait une avera, j'ai fait mal, et que je regrette d'avoir fait mal, là on me dit, ça c'est des rachamim, c'est quelque chose de tout à fait spécial, on ne comprend pas même pas comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il efface. Quelle est la différence? Quand je fais le bien, je ne veux plus faire le bien, on me dit tout ce que tu as fait, c'est effacé. Mais si c'est du mal, alors là, il y a toute une procédure qui s'appelle la tchouba. Quelle est la différence? La différence, elle est simple. Nous nous avons dit Noach le Adam shelo nivra. Si quelqu'un regarde toute sa vie entière, toute la vie entière de tous les hommes qui ont vécu, toute la vie de l'humanité, tout le mal qui a été fait en comparaison du bien, Noach shelo nivra. Ce monde ne regarde pas comme ça. Parce qu'au milieu, il y a la tchouva. La mitzvah, c'est ce qui me permet de vivre, ce qui me permet d'avancer. La avera, on a dit noir chez l'onivra, c'est une portion de mort dans la vie. La vie, elle a besoin de nourriture. Pour vivre, j'ai besoin de me nourrir. Que ce soit de l'air, que ce soit de la nourriture, elle a besoin d'être sous-tendue par quelque chose. La mort, elle n'a pas besoin d'être sous-tendue par quelque chose. La mort, c'est le fait de ne pas vivre. Lorsque quelqu'un fait une mitzvah, cette mitzvah, c'est sa vie. Il n'y a plus rien pour sous-tendre cette vie. Ça tombe. Mais lorsque quelqu'un a fait une avera, Ça n'est pas de la vie, il n'y a pas besoin de nourriture, il n'y a pas besoin de le sous-tendre. Ça existe. Ou plutôt, ça n'existe pas en tant que vie. Comment est-ce qu'on peut l'effacer? La mort, c'est le fait de ne pas vivre. Ça n'a pas besoin de nourriture, ça n'a pas besoin d'être sous-tendu par quoi que ce soit. Quelqu'un qui regrette la mort, ça n'est pas la vie. Alors que quelqu'un qui regrette la vie, justement, c'est la mort. Parce que la vie, si elle n'est pas sous-tendue par l'homme, elle n'existe pas. Si je renie ma vie, je ne vis plus. Que celui qui renie sa mort essaye de vivre, ça, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un fait une mitzvah et qu'il regrette la mitzvah, cette mitzvah ne fait plus partie de lui. Parce que si elle n'est pas sous-tendue par sa volonté, cela ne vit plus chez lui. Mais lorsque quelqu'un a fait une avéra, lorsque quelqu'un fait quelque chose qui est catalogué ou qui est classé et qu'il ne voulait pas faire, à ce moment-là, il n'a pas besoin de la sous-tendre. C'est la sienne. C'est justement qu'il n'a pas vécu pendant ce moment-là. Et là, nous n'arrivons pas à comprendre comment on peut effacer ça. C'est la différence entre celui qui est tohé à la rishonot, celui qui regrette la mitzvah, et celui qui regrette la avéra. Regretter la avéra, il faut faire vivre maintenant. Alors que regretter la mitzvah, il suffit de la regretter et elle meurt. Et là, maintenant, on va arriver à comprendre. Cette teshuvah-là, elle ne peut pas faire revivre la avéra. Lorsque je me suis conduit d'une façon que je regrette, que je nie, comment est-ce qu'on va faire revivre cet instant-là? C'est une chose que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est pour ça que nous nous disons à Kadosh Baruch Hu, « Zechor rachamecha », c'est-à-dire, nous implorons ta pitié pour qu'on ne regarde pas cette mort-là et qu'on ne regarde que l'avenir. À partir du moment où l'on juge quelqu'un selon ses possibilités et non selon ses actions, à ce moment-là, il a l'avenir devant lui. C'est ça ce que nous appelons Rachamim, la pitié. Et maintenant, on comprend que cette teshuva-là, ce fait d'avoir effacé, que ça n'existe plus, ça n'est plus à moi, ça veut dire que ma vie maintenant, elle n'est plus depuis le début X jusqu'à la fin Y. On a déplacé le début comme si ça n'avait pas existé. Et on va recommencer une nouvelle vie. C'est quelque chose que nous n'arriverons pas à comprendre. Nous ne comprenons pas, nous comprenons comment on peut effacer la vie, on peut effacer le positif. Comment on peut effacer le négatif, nous n'arrivons pas à le comprendre. C'est pour ça que ça n'est pas la justice, la stricte justice, la midat hadin, c'est la midat harachamim. C'est quelque chose d'autre. Ce que nous savons, c'est que nous avons une possibilité maintenant dans notre main d'effacer tout ce qui s'est passé. Non seulement nous avons cette possibilité-là, mais c'est même une promesse de la part d'Akadosh Baruch Hu. Puisque nous nous disons, c'est marqué, c'est un verset de la Torah. Ve'haya be'acharit hayamim ve'shavta ad Hashem Elokecha. Il arrivera un jour où le clan Israël entier de toute façon fera tchouva. Ce sera peut-être dur, ce sera peut-être difficile, mais on y arrivera. Ça veut dire que la tchouva est inscrite depuis la création du monde et il est obligatoire qu'elle se passe. Ce que nous, nous faisons comme teshuva, ça n'est que l'écho de cette teshuva potentielle qui existe depuis la création du monde. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé avec un but. Il savait et il a garanti qu'en fin de compte, tout le monde y aura son compte. Comment? Par la teshuva. Veshavta ad Hashem Elokecha. Il y a ici une privation de liberté. En fin de compte, je te garantis que tout le monde fera teshuva. Peut-être avec des moyens pénibles. Mais de toute façon, on y arrivera. Puisque cette teshuva potentielle existe, lorsque nous nous faisons teshuva, lorsque nous nous regrettons ce que nous avons fait, et on va voir après comment est-ce qu'on peut faire teshuva, à ce moment-là, nous nous faisons l'écho de cette promesse d'Akadosh Baruch Hu de teshuva. Et c'est ce que nous disons dans les Shlosh Esrei Midot. Vous savez que pendant les Slichot, et ainsi pendant toute la journée de Yom Kippour, on répète les shlosh esrimidot, les 13 attributs. Hashem, Hashem, kel rachum v'chanun erechapayim v'rav chesed v'emet. Qu'est-ce que c'est que ces shlosh esrimidot? La Gemara nous dit, Melamed, il y a marqué dans le verset Hashem al panav, Dieu est passé devant Moshe Rabbeinu. Melamed, cela nous enseigne. Shenitatef akadosh baruch hu keshaliach tzibur. Dieu s'est enveloppé du talit comme le shaliach tzibur. Et il lui a montré qu'à seder azeya sous le fanaï. Voilà comment est-ce qu'il faut prier. Hashem, Hashem, kel rachum vechanun. Hashem, Dieu, avant la faute. Hashem, Dieu, est le même après la faute. Kel rachum vechanun, celui qui a pitié. Erech apayim, longanim. Rav chesed, plein de bonté. Veut émettre et de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire de vérité? C'est qu'il a promis que la tchouva existerait. Non seulement il a promis qu'elle existerait, mais c'est une donnée fondamentale de la création. Parce que sinon, Noach l'Adam shelo nivra, sinon ça ne valait pas la peine. Si on était obligé dans la création de prendre en compte tout ce qui s'est passé, alors c'est sûr que ça ne valait pas la peine. C'est parce qu'il existe cette possibilité de teshuva, et parce qu'elle a été garantie par Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que Inetov Meod, alors le choix, le Yetzerara, la possibilité, l'alternative, ça devient un moteur de vie et non pas le contraire, un moteur de mort. Émettre, ça veut donc dire que puisque Dieu a promis que cela se ferait, c'est donc une donnée de la vie que de me laisser faire Teshuvah. Donc c'est ça la mitzvah de Teshuvah que nous avons, puisque vous savez qu'il est marqué dans les poskim que à Yom Kippour, il existe une mitzvah de Teshuvah. C'est-à-dire que l'homme a la possibilité lui-même de choisir ses instants de vie. Il a la possibilité de choisir la vie qu'un jour il présentera devant Akadosh Baruch Hu. Pas de regarder du début à la fin parce que là, Noach l'Adam shelo nivra, mais yepash pesh b'ma'asav yashuv, on peut revenir en arrière, on peut recommencer. Ça, c'est le pourquoi de la Teshuvah. Maintenant, le comment. Nos Chachamim nous disent qu'il n'y a qu'un moteur pour la Avera, pour la faute. Il n'y a qu'une raison de faire la faute. On a dit au commencement qu'on ne parlerait pas de celui qui ignore. Celui qui ne sait pas, il ne fait pas de faute. Le jour où il décide d'apprendre et qu'il sait, ça n'est pas une teshuva. On parle de celui qui savait. On parle de celui qui est clair dans la pensée. Mais il n'y arrive pas, comme chacun de nous. D'où est-ce que cela vient? Cela vient d'une seule chose, nous disent les Chachamim. La Gemara dans Shabbat nous dit Yodim Aroshaim Shedarkam Lemita Ela Shechev Chelev Al Kesilam. On va traduire ça simplement en disant chacun sait où il en est. Chacun sait ce qu'il fait. Chacun sait s'il est dans le bien ou dans le mal. Seulement il veut l'ignorer. J'ai une possibilité, ce qu'on appelle le rat, le mal. De ne pas m'investir dans mes actions. Chacun a cette possibilité-là. Je sais ce qu'il faudrait faire, mais je ne le fais pas. Parce que je ne m'investis pas. C'est ça le vrai problème de la Teshuvah. Et là, il y a une seule raison. C'est parce que j'ai peur du manque dans le cas où je me conduirai selon ma pensée. Je sais ce que c'est de faire le bien. Seulement j'ai peur. Parce que j'ai peur de manquer de quelque chose. On n'a pas besoin de parler grossièrement de celui qui a peur de fermer son magasin le Shabbat. On peut parler des choses plus fines. Je sais que ça n'est pas bien de parler comme je le fais. Seulement, j'ai peur de ma situation si je ne le fais pas. C'est un besoin. Et si je n'assouvis pas ce besoin, j'ai peur des conséquences. Et il y a un moment chez chaque homme où il n'a plus peur. Ça peut durer une seconde. Mais ça existe. Chaque homme est équipé pour cela. Il n'a peur de rien. Tous les besoins qu'il puisse avoir, il y a eu, et où il décide que même s'il n'assouvit pas ces besoins-là, il n'y arrivera rien de mal. Le problème est de savoir comment conserver cet instant-là. Il y a une Gemara dans Sanhedrin, la Gemara dit ceci. Tout le monde connaît ce qu'il s'est passé entre le roi Saül et le roi David. Saül a accusé David de compromettre sa royauté. Il ne savait pas que c'était lui qui était désigné pour lui succéder. Et il l'a accusé d'être Mored be Malchut, motamo, de comploter contre la royauté. Il lui avait donné en mariage sa fille Michal. Il a déclaré nul ce mariage. Et il l'a donné à un homme qui s'appelait Palti ben Laïch. Son nom, Paltiel, la Gemara nous dit, chez Palto, quel mina avera. Dieu l'a sauvé de la avera. La Gemara dit comment? Le roi Saül l'a obligé à épouser sa fille. Et lorsqu'il était dans sa maison, il a planté un glaive au milieu de la chambre. Et il a dit, Kol Mishita Seik Bedavar Zeidaker Becherev. Tout celui qui passera cette frontière-là sera tué par ce sabre. Que ce soit elle ou lui. C'est pour ça qu'il s'appelait Paltiel. La question se pose, si tu penses que ce mariage est nul, tu n'as pas besoin du sabre, un homme doit pouvoir mettre ses actes en accord avec ses idées. Seulement Paltiel savait une chose. Il y a eu un instant où il a compris qu'il y a une chose qu'il ne fallait pas faire. Comment est-ce que je vais conserver cet instant-là? Il a pris son sabre et il l'a mis dans la terre. À partir du moment où il regardait ce sabre-là, il se rappelait de cet instant-là. Il y a un instant où il n'avait pas peur de lui-même. Il n'avait pas peur de ce qui pouvait lui arriver s'il se retenait. Il n'avait pas pitié de lui-même un instant. Comment conserver cet instant-là? Il a fait un signe. Chaque fois garder son sabre, il se rappelait de cet instant-là. Si à un instant j'ai pu concevoir que la Avera, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi, et que quoi que cela me coûte de ne pas la faire, j'ai décidé de ne pas la faire, et il ne m'arrivera rien, cet instant-là, cet éclair-là, on peut lui donner une durée. On va le fixer. Chacun a un moment comme cela. Et bien qu'après, il peut se dire de nouveau que s'il ne fait pas ce qu'il pense être interdit, il ne s'en sortira pas. Il a besoin de le faire, mais il se rappellera qu'à un moment, il n'avait pas ce besoin-là. Et il peut reconstituer ce moment à chaque instant. Ça, c'est le truc, entre parenthèses, de Palti Ben Laïch. Cette angoisse qu'éprouve l'homme à ne pas satisfaire un besoin, parce qu'il ne sait pas de quoi il aura l'air lorsqu'il n'aura pas satisfait ce besoin-là. Et c'est la seule raison pour laquelle il fait la Avera. Elle peut aussi être enlevée par d'autres moyens. Il y a le Midrash dans Bereshit, le Midrash Rabba, qui raconte l'histoire de deux hommes. Le premier s'appelait Yosef Meshita. Yosef Meshita était un homme qui est passé dans le camp romain au moment de la destruction du temple de Yerushalayim. Il a aidé les Romains, et au moment où ils sont arrivés à l'entrée aux portes du temple, ils étaient sur le parvis, ils avaient peur de rentrer. Et ils ont dit à Yosef Meshita, rentre toi. Si on voit que tu t'en sors indemne, on rentrera nous aussi. Puisque toi, tu es venu avec nous, c'est que tu ne crois pas à tout ça. En échange de quoi, tu pourras prendre n'importe quel objet que tu trouveras dedans. Il sera à toi. Yosef Meshita est rentré. La première chose qu'il a vue, c'était la menorah. Il a vu une immense masse d'or. Il a pris ses deux mains et avec ce lourd fardeau, il est sorti. Les soldats romains ont commencé à rire. Ils ont dit, t'as rien trouvé de plus pratique à emmener? Qui c'est qui se sert d'un chandelier pareil? Ils ont dit, rentre de nouveau et prends autre chose. Hassan al-Semchit, elle a dit non. On l'a mis sous la torture, il n'a pas voulu. Il a dit, « Klou michasti et bori pa amachat » Ça ne suffit pas ce que j'ai fait, jusque-là, maintenant pas plus. Et on a pu le torturer jusqu'à la mort, il n'est pas rentré. Ça, c'est l'histoire de Yosef Meshita. Il y a un moment où un homme sent la limite, où sa vie n'est plus une vie. À partir du moment où ce que je vis ne me fait progresser en rien, mais fait seulement satisfaire mes besoins, c'est-à-dire me consumer, je me rends compte que ça n'est plus une vie. Et à ce moment-là, je n'ai plus peur. Il est rentré une fois. Il a vu que ce qu'il avait fait était ridicule. À ce moment-là, il a pris conscience d'une chose. Pour vivre comme ça, c'est que je suis dans le non-sens. Il y a un moment où un homme comprend qu'il est dans un non-sens. Et à ce moment-là, il s'arrête. Le deuxième exemple, c'est celui de Yakoum Ish Tzororot, nous dit le Midrash. Yakoum Ish Tzororot aussi était un collaborateur au temps des Romains. Et il a vu son cousin, qui était un des Chachamim, qui s'appelait Yossi ben Yoézer, être amené sur la croix. Parce qu'il avait enseigné la Torah. Et c'était un jour de Shabbat, et on amenait Yossi ben Yoézer sur un cheval pour le rapprocher de la croix. Et Yakoum Ish Tzororot l'a vu. Et il lui a dit, Re susra, dir kivach marach. Regarde le cheval que t'a donné ton maître. C'est-à-dire, voilà où te conduit. Voilà où te conduisent les mitzvot de la Torah. L'observance de la Torah, voilà où elle te conduit à être crucifié. Alors, son cousin lui a répondu, si déjà le Machris savent, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, ils sont en paix comme toi. Kalva Chomer lo Oserotsono. Imagine-toi ceux qui font la volonté de Dieu, quelle paix vont-ils avoir? Yakoum Ish Tzororot a rigolé, a dit, comment? regarde-toi. Kalva chomer lo ose rotsono, regarde-moi et regarde-toi. Il a répondu, imkach lo ose rotsono, kalva chomer le machisav. Si déjà Dieu se conduit avec ose rotsono, ceux qui font sa volonté, il les amène à la croix, imagine-toi ce que vont prendre, machisav, ceux qui ne font pas sa volonté. À ce moment-là, Yakoum Yitzrot s'est senti perdu. Et le Midrash nous dit, ki em be atzmo arba mitot bedin. Il s'est fait à lui-même les quatre façons de mourir qui sont proposées par le Beit Din dans la Torah. Skila, Srefa, Erek Vechenek. On raconte, il a fait toute une mise en scène. Il s'est mis sur un arbre. Il a fait brûler un feu en dessous de lui. Il a mis des pierres. C'est la mort de Skila, la mort de Srefa. Il a mis un sabre, c'est la mort de Kherev, Saïf. Et à ce moment-là, il est mort. Et Yossi Ben Yoézer, qui était sur la croix, l'a vu monter au Gan Eden. Il a dit, Kvar Kidmani Elze le Gan Eden. Il m'a déjà précédé au Gan Eden. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce Yakoum Yitzrot? Il a vu que sa façon de raisonner n'avait plus de sens. Il y a un moment où on arrive à raisonner même si on ne se conduit pas selon ses pensées. Mais tout doucement, on va arriver à une limite où on n'arrive plus à raisonner. Un moment, je me dis, là, je peux faire fi de cette mitzvah. L'autre mitzvah, je me dis, elle est trop difficile. La troisième, elle n'est pas grave. La quatrième, je ferai tchouva. Et à un moment, on ne sait plus où se placer. C'est ce qu'a vu Yakoum Yitzrot. Lorsque Yossi Ben Yoézer lui a dit, « Imkach lo ose rotsono, regarde ce qui arrive à ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, imagine-toi, machisav, ceux qui ne la font pas. » Alors à ce moment-là, il n'avait plus de système. Et il a fait de choix. On voit donc qu'il y a deux façons. Ou d'être arrivé à l'absurde, comme Yosef Meshita. C'est-à-dire que je me rends compte après coup que je me suis conduit d'une façon totalement absurde, et à ce moment-là, je ne peux plus continuer. Ou alors, de ne plus arriver à justifier et à continuer. Comme Yakoum Yitzrot. Et c'est à ce moment-là que vient la Etza, le conseil de Palti Ben Laïch. Quand quelqu'un a un moment comme celui-ci, ce moment-là, c'est le moment de la Teshuvah. Ça veut dire que ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça n'a plus de rapport avec moi. Je n'arrive pas à me situer. Ou parce que je ne peux pas aller plus loin décemment, ou parce que je n'arrive plus à justifier, à trouver un critère de pensée normal qui me satisfasse. À ce moment-là, vient la Itororut, vient le moment de la Teshuvah. Et à ce moment-là, on n'a peur de rien du tout parce qu'on n'a plus d'autres possibilités. La peur de l'homme devant la Avera, de ne pas faire la Avera, cette peur-là, elle vient seulement parce qu'il croit qu'il y a de possibilités. Mais au moment où il se rend compte qu'elle n'existe plus, qu'en vérité c'est la mort, ça n'est pas de la vie, à partir de ce moment-là, rien n'a toujours. Vous savez que tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'on comptabilise 10 jours de Teshuvah. Asara Yemei Teshuvah. 2 jours de Rosh Hashanah. 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. Et Yom Kippur. Rosh Hashanah, vous regardez toute la Tefila, tout le Sidour, on ne parle pas de Teshuvah. Rosh Hashanah, c'est le Yom Adin. Rosh Hashanah, c'est le nouvel an. On est jugé sur l'année d'avant. Et on commence la nouvelle année. Et on ne parle pas du tout de Teshuvah. Pourquoi est-ce que cela fait partie des 10 jours de Teshuvah? Ce qu'on appelle les 10 jours de pénitence. La raison en est peut-être parce que Rosh Hashanah, c'est le moment de ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. De se situer par rapport à ce que Dieu exige de moi. C'est comme ça que commence la teshuva. Lorsque quelqu'un, dans la pensée, s'est situé, il est mekabel, il prend sur lui quelque chose et il commence tout de suite quelque chose. Il commence une nouvelle action, il commence quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Et ça, ça va lui servir de kherev, de glaive, de sabre, comme parle Ben Laïch. Ça, c'est quelque chose où il a eu un moment, au moment de Rosh Hashanah, où il était conscient du système dans lequel il vit. Ce moment-là, il va pouvoir le poursuivre, lui donner une continuité. Et c'est pour ça que dès ce moment-là, bien qu'il n'a pas encore fait teshuva, c'est le moment où il se situe, nous appelons déjà ça la teshuva. C'est pour ça que ce sont les Asarim et teshuva, les 10 jours de teshuva. Parce que de se préparer, de savoir comment faire, il n'y a qu'une solution, c'est de pouvoir garder cette Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire de garder cette façon de penser pour pouvoir tout doucement continuer sur cette lancée-là. Et la seule raison pour laquelle un homme a peur de la mitzvah et a peur de ne pas commettre la avéra, nous avons dit, c'est parce que il est angoissé, il ne sait pas comment en vivra-t-il sans cette avéra. Il croit que c'est un besoin. Mais c'est surtout parce qu'il ne connaît pas ses possibilités. Vous savez que la Torah nous raconte que Bitya bat Paro, la fille de Pharaon, lorsqu'elle a trouvé Moshe Rabbeinu, il y a marqué Vatishlach et Amata Vatikacheu. Il était dans une petite boîte sur le Nil. Vatishlach et Amata, elle a envoyé sa main Vatikacheu. Elle l'a pris. Le Midrash nous dit Nishtar Vevayado. Sa main s'est allongée pour le prendre. Il a eu un miracle. On n'est pas obligé de croire peut-être que la main s'est allongée jusqu'au fond de la salle. Une action dont je crois ne pas être capable, à partir du moment où j'ai décidé de la faire, j'en suis capable. Vatishlach et Amata, elle ne savait pas si elle y arriverait. Mais comme elle voulait y arriver, elle est arrivée. On voit le même exemple à propos de Yaakov Avinu. Il est écrit dans le verset Vayegal et Even, mais al pia beer. Yaakov a soulevé la pierre qui bloquait le puits. Et Rashi nous dit Melamed Shebaal Koachaya, c'était quelqu'un de très fort. Yaakov Avinu avait la chance d'être fort. Il est arrivé à soulever la pierre. Mais pourtant, si vous regardez dans la tefila de Geshem, la tefila que nous disons à Sukkot, tefila de Geshem, la prière pour la pluie que nous disons à Sukkot, là-bas nous disons Yichad Lev. Yaakov Avinu, Yichad Lev Motamo, ça veut dire il a fait quelque chose d'extraordinaire. Si Yaakov Avinu avait une force plus que les autres hommes, il n'a rien fait d'extraordinaire. Ce que Rachid Melamed chez Balko Achaya, c'est que comme Yaakov Avinu avait décidé de le faire, il est arrivé à le faire. Un homme ne connaît pas du tout non seulement sa force, ses possibilités, mais ce que Akadosh Baruch Hu peut aider. Dans la Gemara que nous avons citée de Brachot, où la Gemara dit Akol bide shamaim chutz mirat shamaim, Rashi là-bas, il nous explique, il nous dit attention. Toi, tu crois que la Gemara veut dire tout est dans la main de Dieu, à part la crainte de Dieu, même la crainte de Dieu, elle est dans la main de Dieu. Rashi nous dit seulement Akol bide shamaim chutz mirat shamaim, qu'est-ce que ça veut dire irat shamaim? Be eize derer telech. Tu ne choisis que le chemin dans lequel tu vas aller. Mais au moment de poursuivre dans ce chemin-là, sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas non plus. Et là, on peut arriver à enlever cette angoisse qui vient lorsqu'on se trouve devant une avéra, on se trouve devant quelque chose qu'on a des difficultés à ne pas faire ou à faire. Si la Torah me dit de faire comme ceci ou de faire comme cela, moi, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Et j'ai peur. Je juge selon mes possibilités. Seulement la Torah nous dit, à Kolbi de Shamaïm, toi, tu n'as aucune possibilité. Tout ce que tu as, on te l'a donné. La seule possibilité, nous dit Rashi, c'est de choisir dans le chemin dans lequel tu veux aller. Mais une fois que tu as choisi le chemin, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'aide. Et ça, nous le disons dans les Tehillim. Moi, je juge que la situation est catastrophique. Si je me cantonne à la mitzvah, je ne m'en sortirai pas. Et pourtant, nous nous disons dans le Tehillim, Ayotzer Aïn Alo Yabit, Anota Ozen Alo Ishma, celui qui t'a donné l'œil, tu crois qu'il ne voit pas? Qui t'a donné, toi, la possibilité de voir le danger? C'est Akadosh Baruch Hu, toi, tu ne l'as pas de toi-même. Anota Ozen Alo Ishma, celui qui t'a donné la possibilité d'écouter, lui, il n'entendrait pas. C'est-à-dire que je juge que je suis tout seul. Si je suis tout seul devant la possibilité de la mitzvah et de la avera, je m'en sors pas. Parce que moi, de moi-même, je n'ai aucune possibilité. Mais je sais qu'anota ozen alo ishma im yotzerain alo yabit. Alors à partir de ce moment-là, puisque c'est le chemin dans lequel je dois m'engager, c'est que je peux m'y engager. Comment j'y arriverai? Je ne sais pas comment j'y arriverai. Seulement, justement pour qu'Akadosh Baruch Hu aide, j'ai besoin de ces rachamim. J'ai besoin de ce chesed, de ce don gratuit qui est la vie. Et ça, on ne le donne qu'à celui que Mishen Bodat Asul Rachem Alav, on ne le donne qu'à celui qui a du dat. Qu'à celui qui apprend, qui essaie de savoir dans quel chemin aller. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas armés face à la Avera. La seule raison en est que nous ne savons pas jusqu'où elle va et jusqu'où nous allons. Parce que nous n'avons pas de date. Celui qui n'a pas de date, celui qui n'a pas d'avenir, qui n'apprend pas, qui ne se construit pas, on ne l'aide pas. Et justement, nous avons peur qu'on ne nous aide pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de date. De connaissance. Celui qui essaye de développer cette connaissance, qui essaye d'étudier chaque chose, et d'essayer de voir l'importance de chaque chose et les conséquences de chaque chose, à partir de ce moment-là, il provoque justement ce rachamim, cette miséricorde. À partir de ce moment où il est en droit de recevoir la vie, c'est-à-dire qu'on le fasse progresser, qu'on le mette de nouveau devant d'autres choix et devant d'autres alternatives, et qu'il progresse et qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte. Pour ça, il faut avoir du date. Pour ça, non seulement il faut se renseigner, il faut étudier, mais il faut connaître. Et lorsque je ne veux pas savoir et je ne veux pas connaître, c'est aussi parce que j'ai peur. Parce que je ne sais pas jusqu'où ça va m'amener. Mais si je sais que c'est le contraire, que Mishen Bodat, moins j'en saurai, moins Brachmi Malav, moins je serai aidé, alors je comprends que ce derrière que ce chemin-là est faux. C'est en conclusion. Chacun sait très bien que le problème de la teshuva, c'est un problème non seulement qui le concerne, mais qu'il a peur d'aborder parce qu'il a peur des conséquences. Et il ne faut pas se leurrer. Nous n'avons pas les mêmes problèmes qu'autrefois. Les problèmes deviennent et changent selon notre entourage. Il y a une soixantaine d'années, le problème de la communauté juive, les problèmes des juifs, étaient surtout des problèmes de philosophie. L'assimilation, elle était faite surtout par le communisme. L'assimilation, elle était faite par la culture. L'assimilation était faite par la philosophie. Nous n'avons pas le droit de nous leurrer. C'est vrai que le juif qui a 60 ou 80 ans était attiré par le communisme, c'est parce qu'il avait peur de la vie du clan Israël. Il avait peur de l'avenir. Il croyait que c'était la seule porte. Celui qui adoptait une autre philosophie, c'est parce qu'il croyait qu'il trouverait une solution plus facile. Et qu'il voulait trouver une solution plus facile. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces problèmes. Ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, les problèmes du juif, le problème de la teshuva, c'est un problème bassement matériel. Le problème de l'assimilation aujourd'hui, ça n'est plus un problème de conscience ni de philosophie, c'est pas vrai. C'est un problème de harayot. C'est un problème de conduite morale. C'est un problème d'assimilation par le bas, dirons-nous. Il faut le savoir. Et là aussi, c'est une question de manque. La Gemara nous dit, Rov de Karet et de Mitot Bedin, c'est les Harayot. La plupart des peines de Karet, c'est-à-dire retranchement du clan Israël ou Mitot Bedin, la mort, ce sont des problèmes d'Harayot, d'interdit sexuel. Et il faut essayer de savoir pourquoi. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. La majorité des problèmes des Juifs, c'est ceci. L'assimilation et le fait de renier la situation du Juif, et la teshuva, elle est là-dedans. D'où est-ce que cela vient? Dans la paracha de Kedoshim, il y a un pérouche sur la Torah qui s'appelle le Sforno. Et il explique ceci. Il dit, l'être le plus proche de l'homme, c'est lui-même. Et il va chercher, pour se satisfaire, pour satisfaire son ego, quelque chose de proche de lui. Le contact qu'il recherche avec l'extérieur, c'est pour se retrouver. Ça n'est pas pour retrouver l'autre, c'est pour se retrouver lui-même. Ça, c'est le grand problème de la génération actuelle. C'est qu'il y a une telle peur de la solitude, entre parenthèses. Il y a une telle peur de la vie, que l'on essaye de l'occulter par l'autosatisfaction. Et l'autosatisfaction la plus facile, c'est d'entrer en relation avec n'importe qui et n'importe comment. Le problème de la teshuva, il est ici. C'est que nous avons dit que la seule solution pour l'homme, pour vivre, ça n'est pas l'autosatisfaction de son existence. Que si on enlevait à quelqu'un tout ce qui est autour de lui, il ne vivrait pas. Et si quelqu'un qui se livre à ses pratiques et dont le moteur et le but dans la vie est ce genre de choses-là, s'il fait le compte de ce qu'il a vécu, il n'a rien vécu du tout. Il a seulement emmagasiné, et plus il a emmagasiné, plus il aura faim. Parce que on ne peut pas se satisfaire de sa propre existence. On ne peut pas se satisfaire de la jouissance que l'on se procure à soi-même. Ça n'est pas possible. Ce que la Torah appelle le mariage, c'est la prise en charge de l'autre et non pas l'autosatisfaction. Chaque fois qu'il y a une déviation dans ce sens, c'est ça ce que nous dit le Sforno, c'est que l'homme recherche, on dirait aujourd'hui, son moi. Et son moi ne le satisfera jamais. Parce que son moi, c'est une auto-jouissance éphémère. Et il faut savoir, il faut être conscient aujourd'hui des problèmes. Aujourd'hui, les problèmes, ça n'est plus, on n'a même plus à traiter les problèmes philosophiquement. Aujourd'hui, les problèmes sont clairs. On sait où l'on va, on sait comment être propre et comment ne pas l'être. Celui qui a des problèmes pour manger cacher ou non, il suffit d'une décision d'un instant et pour toute la vie, il s'y tiendra, il n'aura jamais de problème. Les vrais problèmes ne sont pas là-dedans. Les vrais problèmes sont, quelle est la place qu'il occupe dans sa propre vie. Quel est le sens que l'on donne à sa propre vie? Ça, c'est le vrai problème de la teshuva. Cette peur qu'a l'homme de se retrouver seul, cette peur qu'a l'homme de ne pas s'autosatisfaire, cette peur-là, elle est occultée totalement par la Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle le yetzer hara, le plus primaire, le ra. Ra, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas vers l'avenir, quelque chose qui est retourné vers soi-même. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Et dans tous les domaines, ce sont les mêmes problèmes. La Gemara nous dit, Ruban begezel umiutam barayot.
le rov, la majorité des averot, c'est le gezel, le vol. Pourquoi est-ce que c'est le vol? Parce que dans mes rapports avec autrui, je me recherche moi-même, parce que j'ai peur de ne pas m'autosatisfaire. J'ai peur de ce qui va arriver si je donne à l'autre ce qui lui revient. Et dans tout, c'est comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et ça aussi, ce sont les problèmes d'aujourd'hui. Ce sont des problèmes de morale pure et simple. Pas des problèmes de philosophie. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de voler l'autre, ni de voler l'État, ni de voler personne. Et pourtant, ce sont ça nos problèmes. Et c'est là-dessus que doit porter la tchouva. La tchouva, c'est facile de parler de choses qui ne mettent en cause personne. La tchouva, elle doit être sur les problèmes de l'heure. Et les problèmes de l'heure, roubam be gezel ou miutam be arayot. C'est-à-dire, le rov, la majeure partie, c'est le rapport avec autrui. Et la Torah nous dit, ve'avta l'oreach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que toi-même, tu t'aimes. Ça, tout le monde le sait. Ve'avta l'oreach kamocha. Et il a dit, zeklal gadol batorah. Pourquoi n'a-t-il pas parlé du bon Dieu? Parce que de savoir si on peut être Eved Hashem, c'est-à-dire si on peut être serviteur de Dieu, il faut d'abord savoir si on peut être serviteur de celui qui est en face. Si on est capable de prendre en charge celui qui est en face, et pas le contraire, d'essayer d'être pris en charge par lui pour s'autosatisfaire. Ça, c'est le grand problème de l'heure. Ce ne sont pas des problèmes ni de Avodah Zarah, ni de Marchava, ni de rien du tout. Les vrais problèmes sont ceux-là. Et le problème qu'a chacun de nous, c'est celui-ci. Parce que la civilisation qui nous entoure, elle est arrivée à un non-sens total, elle est arrivée à une solitude qui ne peut s'occulter que par l'autosatisfaction et la jouissance personnelle. Voilà où en sont arrivés les goyim autour de nous. Ils en sont arrivés au fait de n'avoir aucune communication, mais d'être simplement l'un à côté de l'autre à s'autosatisfaire. Et ensemble, l'autosatisfaction de chacun, on essaye de croire qu'on a une relation l'un avec l'autre. Nous, on est exactement au même niveau. Et les problèmes que nous avons ne sont pas les problèmes de ceux qu'il y avait il y a 200 ans, ce sont les problèmes de ceux qui sont maintenant. Ça, ce sont nos problèmes. Nos problèmes, c'est comment ne pas utiliser l'autre, comment ne pas faire de l'autre un objet. À partir du moment où quelqu'un est capable de ben adam la chavero, c'est-à-dire de ne pas penser à lui en tant que objet, alors il est capable aussi de ne pas penser à l'autre en tant qu'objet. Et à ce moment-là, il peut arriver à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, que l'homme a été créé pour servir, pour être Eved Hashem, c'est-à-dire pour avoir un but. Ce but-là, il ne peut pas l'occulter, il n'est pas seul, il a été créé, il est Eved, il est serviteur. C'est ce qu'a dit Hillel. Hillel, lorsque le guerre, lorsque celui qui voulait se convertir est venu chez lui, lui a dit, « Ma de Sanilar, ce que tu n'aimes pas, le Chavrach Lotavid, ne le fais pas à l'autre. » Tout le reste, c'est l'explication. Pourquoi ? Le Shabbat, c'est l'explication de ça. Oui, c'est l'explication de ça. Parce que celui qui n'arrive pas à faire Shabbat, c'est parce qu'il a peur pour lui. Mais si un jour tu pensais au but de la création, pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a créé, et qu'est-ce que lui veut, alors tu n'aurais pas peur pour toi. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Ça veut dire, essaye d'avoir un rapport avec l'autre qui reconnaît l'autre. Celui qui peut reconnaître l'autre, il peut aussi arriver à reconnaître Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le vrai problème de la tchou, et ça, il faut le savoir. Et la seule façon, c'est ce que nous disent les Chachamim, Palti Ben Laïch. Il y a un moment où chacun le comprend. Et au moment où chacun le comprend, il doit se faire un siman, il doit se faire un signe, il doit pouvoir perpétuer cet instant-là, et que cela devienne chez lui une conduite. C'est ça ce que l'on appelle, nous, Kabbalat Ol Malchut Shamaim, ça veut dire de prendre une résolution, de prendre quelque chose sur soi, et arriver à perpétuer cet instant-là, et c'est ça ce qu'on appelle la tchou. Bon, on va essayer de répondre aux questions dans l'ordre. Le problème de se placer face à l'incroyant, je vais vous dire, moi je ne crois pas à ce qu'on appelle vulgairement le missionnarisme, le Zikou Erabim, tous ces trucs-là. Je crois profondément qu'un homme est libre et qu'on n'a rien à lui expliquer. Et qu'on ne peut pas se mettre à sa place, qu'on ne peut pas l'influencer, et qu'il n'y a pas de derech, il n'y a pas de façon de lui prouver quoi que ce soit. J'ai entendu qu'il y avait une conférence, je pense que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, preuve de l'existence de Dieu. Bon, puisque la preuve est faite, normalement les problèmes sont résolus. En vérité, tout le monde sait que ça n'est pas vrai.
parce qu'il n'y a de preuve pour personne, parce que je crois en ce que je veux croire, et toutes les preuves du monde n'y feront rien. Je ne pense pas personnellement qu'il existe une façon de manipuler l'autre, ou une façon de lui enlever son libre arbitre pour lui montrer qu'il a tout intérêt et que sa seule possibilité est de faire ce que je fais. La seule chose que l'on peut faire, et ça c'est l'obligation qu'a tout juif, c'est d'enseigner. Et nous avions dit que normalement un enseignant c'est celui qui pense qu'il ne peut pas enseigner. Alors ça devient encore plus difficile. La seule chose qu'on peut faire, c'est exposer objectivement ce que la Torah, ce que la Kadosh Baruch Hu veut de nous. Et c'est à chacun de se mettre devant le choix et de choisir. Maintenant, de proposer des systèmes et comment peut-on faire pour expliquer que... Je ne pense pas qu'on est obligé de se mesurer à ce problème-là. Ce qu'on doit faire, c'est l'ilmod, étudier, le lamed et enseigner. Cet enseignement, chacun le prend, chacun en fait ce qu'il veut, chacun est libre devant lui, et c'est à lui de réagir. Mais je ne pense pas même qu'il soit bon d'étudier une façon de manipuler les autres. Maintenant, la deuxième question qui était que l'incroyant ou celui qui est éloigné de la communauté éprouve comme le poisson dans la mer des difficultés parce qu'il ne sent pas que c'est son entourage. Il est sûr que ça n'est pas à moi d'essayer de m'adapter à lui. Parce que sinon, on pourrait peut-être penser que le message nous appartient. Et que puisqu'il nous appartient, on peut le faire de plus en plus mince jusqu'à ce qu'il passe sous la porte des incroyants. Mais il ne nous appartient pas. Ce que la Torah demande, elle le demande à tout le monde, à lui comme à moi. Si ma façon de faire est étrangère pour lui, qu'il en trouve une autre, qu'il se reconstitue son système, peut-être arrivera-t-il en fin de compte à ce que je pense être arrivé, ou peut-être n'y arrivera-t-il pas. Mais d'essayer de savoir comment adapter la communauté à celui qui est encore de l'autre côté, je ne crois pas que c'est un besoin, que ce soit un besoin. Il y avait de savoir quelle était l'épreuve de Batsheva. Je ne voudrais pas me répéter, mais l'épreuve de Batsheva, c'est l'épreuve de tout jeune juif en France. C'est de savoir qu'il y a des façons de se conduire qui peuvent être agréables sur le moment, parce qu'elles donnent des sensations fortes, mais qui n'ont aucune justification en soi. Maintenant, étudiez tout le problème de David et de Batsheva, puisque vous savez que la Gemara dit que David n'a pas fauté, et d'un autre côté, on dit que David, c'est celui qui a montré la porte de la Teshuvah. Ça devrait faire l'objet d'une conférence ultérieure. Il y a diverses gemarot à étudier, de savoir est-ce qu'elle était mariée, elle était encore mariée, elle n'était plus mariée. Mais ça, c'était le problème de David Améler. Ce que je voudrais dire, une chose dont je pense qu'elle n'a peut-être pas été dit assez. Il y a une histoire que la Gemara nous raconte dans le traité d'Avodah Zara. C'est l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Il y avait un homme qui s'appelait Eliezer ben Dourdaya. Ce Eliezer ben Dourdaya, la Gemara nous dit qu'il n'y avait aucune femme qui faisait le commerce de son corps au monde qu'il ne connaisse pas. On dit aujourd'hui que c'était un coureur effréné. Et puis un jour, il lui est arrivé une histoire qu'on n'a pas le temps de raconter maintenant. Et il en a eu assez. Il a voulu faire teshuva. Et il a pleuré. Il a pleuré jusqu'à ce que toutes les larmes de son corps ne suffisent plus et il est mort. À ce moment-là, Bat Kol, il y a une voix céleste qui s'est élevée et qui a dit « Rabbi Eliezer ben Dourdaya me zuman le chaye olamaba. » Rabbi Eliezer ben Dourdaya est invité au monde futur. La Gemara nous dit « Bacha Rabbi, Rabbi Yuda Nasi a pleuré et a dit « Yesh kone olamo besha'achat. » Il y en a qui acquièrent le monde futur en un instant. Lo dayan le bal tshuva, il ne suffit pas au bal tshuva, celui qui fait tshuva, exaucé, mais en plus on l'appelle Rabbi. Puisque la voix céleste a dit Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Le problème est de savoir, Rabbi, c'est quelqu'un qui enseigne. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer ben Dourdaya a enseigné? Rabbi Eliezer ben Dourdaya a enseigné qu'il existait une possibilité de teshuva, même si pour faire teshuva, il fallait renoncer à la vie. Ça, c'est ce qu'a enseigné Rabbi Eliezer ben Dourdaya. C'est pour cela qu'on l'a appelé Rabbi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à peu près la même chose que Yaakov Mishtzororot. Et la Gemara nous dit, pourquoi est-ce qu'il a tellement pleuré? Pourquoi est-ce qu'il en est mort? Parce qu'il était avik bechet. Avik, ça veut dire qu'il était attaché à la vera, à la faute. Il n'arrivait plus à reconstituer sa personnalité sans la faute. Et c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à vivre avec la teshuva. Et c'est pour ça qu'il en est mort. Et comme et malgré tout, Rabbi Eliezer ben Dourdaya a préféré ça plutôt que de vivre avec la avera, avec la faute. Parce qu'il y était tellement habitué, c'était devenu quelque chose de tellement naturel chez lui, qu'il ne voyait même plus de possibilité de s'en sortir. C'est pour ça qu'il a pleuré, c'est pour ça qu'il en est mort. Ce qu'on avait dit au début, que Mishen Bodat Asur Rachem Alav, celui qui n'a pas de date, qui ne comprend pas, c'est pour dire que même si nous nous avons traité, comme on a dit qu'on a occulté le problème de celui qui ne connaît pas, il est évident que chaque fois qu'un homme est en prise avec la Avera, avec un problème, c'est qu'il manque de date, il manque d'études, il manque donc d'avenir, il manque de prévoyance. Et la façon, et la seule façon qu'on a de s'en sortir, justement pour avoir cet instant où on voit clair, c'est d'étudier le problème. D'étudier le problème de savoir pourquoi la Torah interdit ceci. D'étudier le soem, de savoir qu'est-ce que la Torah me donne comme arme. Qu'est-ce que la Torah me donne comme façon de me comporter. À partir du moment où on acquiert ce dat, cette connaissance, alors à ce moment-là, on a accès à la teshuva. Mais il est évident que sans apprendre, sans voir quelque chose de nouveau, sans avoir d'avenir devant soi, sans avoir un nouvel éclairage, on ne peut pas faire teshuva. C'est pour ça que le problème n'est pas seulement de prendre une décision. Le problème, c'est d'y voir clair. Comment y voir clair? Comment ne pas avoir peur de la teshuva, justement? C'est seulement en étudiant, en ayant une connaissance et en voyant les choses d'un éclairage nouveau. C'est là où on voit l'importance de l'étude dans la teshuva. Ça veut dire qu'à part la tefila, à part le fait de demander à Kadosh Baruch ou d'accepter la teshuva, ce que l'on fait à Yom Kippour, on a pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour la possibilité d'étudier les Hilchot Teshuva, de savoir qu'est-ce qui fait qu'on fait une Avera, qu'est-ce qui fait que l'on n'arrive pas à se mesurer, comment est-ce que la Torah me donne la possibilité de m'en sortir.
On remercie le Rav Emma.